Hier et avant-hier, nous avons vu des articles dans la presse et à la radio qui faisaient état du fait que les foisonnantes recevaient des conférenciers qui étaient extrémistes et complotistes. Vous avez parlé ce matin du fait que vous-même avez été accusé de complotisme et d'extrémisme. Qu'est-ce que vous avez à répondre à ça ?
Alors, moi, ça fait depuis mon engagement dans la crise Covid, c'est régulier que des journalistes qui soutiennent le gouvernement ou ce qu'on appelle les fact-checkers, ces gens qui sont payés soi-disant pour vérifier l'information mais qui ne la vérifient pas mais qui suivent ce qu'on leur dit de faire, m'ont souvent taxé d'extrémistes d'extrême droite. Alors, j'ai jamais été d'extrême droite, j'étais plutôt par conviction familiale et de toute ma vie plutôt centre-droit, plutôt d'obédience gaulliste, mais jamais dans les extrêmes. Et je m'aperçois qu'aujourd'hui, dès qu'on n'est pas d'accord, comme il n'arrive pas à me contredire sur des arguments scientifiques. Moi, j'aimerais que mes contradicteurs me disent « Perron n'a pas dit les choses comme il faut parce que voilà les arguments scientifiques, etc. » Un après les autres, je suis prêt à débattre. D'ailleurs, ils ont toujours refusé le débat public contradictoire. Ils cherchent à me discréditer en disant « Perron, c'était un gars très bien avant, mais maintenant, il était discrédité, il est tombé dans le caniveau. » Même ils ont dit que j'étais un ancien médecin. Donc, je les rassure, je suis toujours médecin, toujours inscrit au Conseil de l'Ordre. J'ai jamais été radié. Et donc, ils racontent n'importe quoi. Et pour salir la réputation des gens, ils balancent que vous êtes d'extrême droite, que vous êtes fasciste. Alors, c'est pas parce qu'il y a eu un soutien de temps en temps de personnalité d'extrême droite, mais moi je les respecte s'ils ont soutenu le mouvement pour dénoncer des choses qui n'étaient pas normales dans la crise Covid, qu'ils soient de droite ou de gauche, je m'en moque. C'est pas pour ça que tous les gens qui sont dans ce mouvement sont d'extrême droite. Mais à chaque fois, on nous accuse d'être d'extrême droite. Je citais par exemple, il y a un film qui s'appelle Tous résistants dans l'âme avec Stéphane Chatry, qui est un film merveilleux sur le retour à la nature, les petits oiseaux, l'autonomie de la nourriture, fabriquer des maisons autonomes, etc. J'ai participé en tant que médecin, mais pas du tout dans un débat polémique. C'était pour vous donner un peu ma vision de la médecine. Et ce film a été démoli, interdit dans les grandes chaînes de cinéma. Tous les partis politiques ont accusé le film d'extrême droite. Ils ne l'avaient même pas vu. Ils ont répété ce qu'on leur a raconté. Donc c'est juste pour salir la réputation. On m'avait même accusé d'être antisémite. Et heureusement, j'avais beaucoup de soutien en Israël, un peu par hasard, parce qu'en Israël, il y a beaucoup de francophones. Et j'ai appris par hasard, par un médecin franco-israélien, que beaucoup de gens m'admiraient en Israël, soutenaient mon combat en France, parce que la situation est assez difficile aussi politiquement en Israël. Ils sont tous un peu en colère contre leur gouvernement. Donc j'avais même reçu une vidéo, il y avait marqué « Tous les amis d'Israël soutiennent le professeur Perron ». D'ailleurs, j'avais envoyé ça au Conseil de l'Ordre qui m'accusait d'être antisémite à l'époque. Donc c'est pour vous dire, on raconte n'importe quoi pour salir la réputation des gens. Et quand on voit les foisonnantes, bon, c'est le premier épisode, j'espère qu'il y en aura d'autres, c'est merveilleux. On voit des gens de tous les horizons, il y a des aspects médicaux, des aspects sur l'école, l'éducation, sur comment refaire une vie, une société plus fraternelle. Il n'y a aucune animosité, il n'y a pas d'agressivité, les gens s'écoutent, se respectent. On a l'impression vraiment d'une vibration très forte, des qualités humaines, à la fois parmi les orateurs. Et donc cette rencontre, elle est fantastique. Il faudrait que les gens qui écrivent des sottises viennent voir avant de faire des articles qui n'ont strictement aucun sens. Mais je remercie tous ces journalistes qui nous ont attaqués parce que ça nous a fait beaucoup de publicité.
Vous parlez d'une partie de la population grandissante qui se réveille. Alors comment on peut décrire quelqu'un qui n'est pas en conscience et quelqu'un qui l'est ? Quels sont les critères
Vous savez, j'avais conseillé des gouvernements pendant 15 ans sur la gestion des crises sanitaires. J'étais au plus haut niveau dans la gestion de la politique vaccinale en France à l'OMS. Donc moi, j'ai plongé dans ce milieu scientifique et j'ai tout de suite vu que je faisais n'importe quoi sur le Covid, ça tournait pas rond. Mais la plupart des gens, surtout s'ils n'étaient pas dans le domaine scientifique de la santé, connaissaient pas tous les dessous et forcément, on avait l'impression de vivre en démocratie. On fait confiance à son gouvernement. Pour un Français moyen, le ministre de la Santé est là pour protéger la population. Et moi-même, j'étais un petit peu dans cet état d'esprit il n'y a encore pas si longtemps. Les premières années, les gens avaient tellement peur et regardaient la télé qu'ils ne réfléchissaient plus, ils étaient anesthésiés. Alors petit à petit, les gens ont pris du recul, ont vu que finalement, le Covid, en plus maintenant tous les variants, c'est de la rigolade, ça donne des rhumes et des bronchites, il n'y a plus aucune dangerosité. Mais on continue à faire croire à la télé que le nouveau variant, l'Eris, va être très méchant, qu'il faut se remasquer. De plus en plus, les gens n'y croient plus et surtout voient autour d'eux les effets secondaires de l'inoculation. Alors ceux qui regardent la télé tous les jours, qui se posent pas questions, ils sont pas encore éveillés, mais je sens que de plus en plus de personnes commencent à ouvrir les yeux, avoir une réflexion différente en disant la prochaine fois on m'aura pas comme ça, jamais je remettrai un masque, jamais j'accepterai de nouveau de me faire inoculer. Je me suis toujours battu, pas dans la polémique pour apporter des arguments scientifiques. Et d'ailleurs, j'ai participé à la publication d'une dizaine d'études médicales internationales publiées dans des journaux médicaux scientifiques à comité de lecture, sur des journaux en anglais, référence internationale, parce que je veux pouvoir montrer que tout ce que j'ai dit depuis le début, j'ai toujours apporté les sources. C'est pour ça, d'ailleurs, ils n'ont jamais pu me coincer. Même le Conseil de l'Ordre a reconnu que j'étais une des rares personnes compétentes pour juger de la situation. Et finalement, quand je regarde tout ce que j'ai dit depuis le début, j'en suis fier parce que tout s'est avéré vrai. Ils n'ont jamais réussi à me coincer sur une seule donnée scientifique et pour moi, c'est très important.
Vous avez même été au tribunal.
Alors j'ai été convoqué, ça s'appelle la chambre disciplinaire du conseil régional d'Île-de-France. C'était le conseil national qui avait porté plainte contre moi. Alors moi je dépendais du conseil départemental des Hauts-de-Seine, mais pour les instances disciplinaires, là ça a été jugé à la chambre régionale de toute Île-de-France. Alors c'est comme un tribunal, ils sont habillés en toge, avec l'air rouge, avec l'hermine. Alors c'est des médecins, mais le président, là c'est une présidente, est un magistrat professionnel. C'est très sérieux, hein. C'est mené comme un procès avec les avocats et tout ça. Mais finalement, j'étais serein parce que j'ai apporté calmement tous les éléments pour montrer ce que j'avais dit. C'était basé sur des choses sourcées, que j'ai jamais fait une seule faute de déontologie. Ils l'ont reconnu, c'est écrit en toutes lettres dans le verdict.
Que pouvez-vous nous dire sur la situation des hôpitaux de France actuellement ?
Alors, en France, la situation des hôpitaux est dramatique. Alors, déjà, on a supprimé le pouvoir des médecins, ça date du temps de Sarkozy. Mais surtout, on a coupé régulièrement les budgets. Maintenant, tout le personnel est en épuisement total. Les médecins sont pas assez nombreux, il n'y a plus d'infirmières. Aux urgences, les gens attendent 4 jours. Avant, quelquefois, ils attendaient 4 heures. Maintenant, c'est 4 jours. Il y a des morts aux urgences régulièrement. Le centre 15 qui répond plus. Et on a vraiment l'impression que l'hôpital public explose en vol. Et ça, je crois que là aussi, la population s'en rend compte. On est en train de raréfier, mais c'est volontaire, le nombre de médecins. Même à Paris, moi je vois ma propre sœur avait du mal à trouver un médecin généraliste. Ils sont en voie de disparition. Ceux qui sont là ne prennent plus de nouveaux malades. Alors vous imaginez si déjà à Paris c'est comme ça. Dans les petits coins reculés des vallées françaises, c'est terrible. Il y a des régions, les gens ne trouvent plus un seul généraliste. Alors je parle pas de certaines spécialités qui sont en voie de disparition complète. Il n'y a plus de pédiatre, il n'y a plus d'ophtalmo, il n'y a plus de psychiatre. Et ça c'est du vécu quotidien par les Français. Et pendant ce temps-là, Macron a donné 400 milliards d'euros pour le Covid. Des mesures finalement qui n'avaient aucun sens. Donc l'argent, il y en a, mais je pense que tout ça, c'est pas anodin si on détruit notre médecine aujourd'hui.
À votre avis, quels sont les indicateurs pour aller vers un monde meilleur ?
Alors, j'ai remercié les milliardaires qui sont un petit peu à tirer les ficelles derrière toute cette crise, parce que moi-même, il y a quelques années, je croyais encore à notre démocratie, qu'on vivait en liberté, la politique était là pour nous protéger, pour nous aider. Là, cette crise a permis de nous révéler que non, il y avait quand même des puissances qui sont même au-dessus des gouvernements maintenant, qui les manipulent. Et ce qu'on voit, ce qui est extraordinaire, c'est que après tout ce que les gens ont subi d'humiliation, de perte de travail, de dépression, il y a eu beaucoup de suicides chez les jeunes, même chez les enfants récemment. Et puis le contrôle de tout par l'industrie, la corruption, tout ça, ça éclate au grand jour, les scandales. Les gens se réveillent, s'organisent, se restructurent en famille, avec les voisins, dans le quartier, le village, la petite ville, le département. Et on voit partout foisonner, là ça s'appelle les foisonnantes, justement, ça foisonne de partout. La rencontre de gens pour se mettre ensemble, pour dire maintenant on doit rester indépendant de tous ces lobbies, de tous ces mouvements financiers qui essaient de nous diriger, dire non, repartir sur des basses scènes de solidarité, d'entraide, et de création finalement d'un réseau associatif, qui est le vrai sens de la politique au sens noble du terme. Et je trouve ça très beau parce qu'on voit que c'est en train de foisonner justement. Donc j'aime beaucoup ce mot foisonnant parce qu'on voit effectivement que ça foisonne de partout, que les gens se mettent ensemble à leur niveau de proximité avec les proches pour essayer de construire petit à petit une organisation de la société qui soit plus indépendante, plus proche de la nature, et ça c'est magnifique.